Isaac Babel, Cavalerie rouge. Le passage du Zbrouch. Le chef de la 6e division rapporte que Novograd-Volinsk a été prise à l'aube. L'état-major a quitté Krapivno et notre convoi bruyant arrière-garde s'allonge sur la chaussée, sur l'inaltérable chaussée qui mène de Brest à Varsovie et fut construite sur les os des Moujiks, sur ordre de Nicolas Ier. Des champs empourprés de coquelicots fleurissent autour de nous. Le vent du sud se joue dans le seigle jaunissant. Le sarrasin virginal monte à l'horizon, comme la muraille d'un lointain monastère. La paisible et sinueuse Voline s'écarte de nous dans la brume nacrée des boulets, se coule entre les coteaux diaprés et les bras las s'entortillent en d'inextricables buissons de houblon. Un soleil orangé roule vers le bas du ciel comme une tête tranchée. Une clarté tendre s'allume dans les fissures des nues et les étendards du couchant flottent au-dessus de nos têtes. L'odeur du sang d'hier et des chevaux tués s'égoutte dans la fraîcheur vespérale. Noircit le Zbrouch bruit et retord les nœuds écumants de ses rapides. Les ponts sont détruits. En voiture ou à cheval, nous prenons le guet. Une lune majestueuse est couchée sur les flots. Nos montures enfoncent jusqu'au ras de la croupe. Des torrents sonores fuient sur des centaines de jarrets. Quelqu'un s'enlise et vitupère tapageusement la mère de Dieu. La rivière est parsemée des carrés noirs de nos télègues. Elle est pleine de brouhahas, de sifflets, de chants qui éclatent sur les serpents lunaires et les fosses étincelantes. Tard dans la nuit, nous arrivons à Novograd. Je trouve une femme enceinte dans le logis qu'on m'a désigné et deux juifs roux, maigres du cou. Un troisième dort déjà, tête couverte, collée au mur. Je vois dans la chambre qu'on me donne des armoires sans dessus-dessous, des lambeaux de pelisse de femme sur le plancher, un étron, des tessons de la précieuse vaisselle dont les Israélites ne se servent qu'une fois l'an à Pâques. « Nettoyez un peu, » dis-je à l'hôtesse, « comme vous êtes sales, gens d'ici !» Les deux juifs se remuent alors. Sautillant sur leurs semelles de feutre, ils ramassent les tessons. Ils sautillent en silence, à pas de singe, comme des japonais au cirque. Leurs coups s'enflent et pivotent. Ils me préparent un matelas de duvet, crevé, et je m'étends près d'une cloison à côté du troisième juif endormi. L'indigence épeurée se replie tout aussitôt sur ma couche. Tout s'est anéanti dans le silence, et la lune seule, serrant entre ses mains bleues une tête ronde, scintillante, insoucieuse, chemine en vagabonde sous la fenêtre. Je dégourdis mes jambes enflées, je m'allonge sur le matelas crevé et m'endors. Le chef de la 6e division m'apparaît en rêve. Il pourchasse sur un lourd étalon le commissaire de brigade et lui plante deux balles entre les yeux. Les balles percent la tête du commissaire de brigade et ses yeux, tous les deux, tombent sur le sol. « Pourquoi as-tu fait faire demi-tour à la brigade ?» crie Savitsky. « Le chef de la 6e division a un blessé. » Là, je me réveille, parce que la femme enceinte promène ses doigts sur mon visage. « Monsieur, me dit-elle, vous criez en votre sommeil, et vous gigotez fort. Je vais vous faire un lit dans un autre coin, puisque vous donnez des coups à mon papa. » Elle hausse au-dessus du plancher ses jambes maigres et son ventre arrondi, et enlève au dormeur sa couverture. C'est un vieillard, un mort, couché sur le dos. Il a eu la glotte arrachée, la face est fendue par le milieu, et il y a dans sa barbe un caillot de sang bleu, pareil à un morceau de plomb. « Monsieur, dit la juive en secouant le matelas, Les Polonais l'ont égorgé, et il les suppliait, « Tuez-moi dans l'arrière-cour pour que ma fille ne me voie pas mourir !» Mais ils l'ont massacré comme ça les arrangeait. Il est mort dans cette chambre en pensant à moi. « Et maintenant je veux savoir !» s'écria tout à coup la femme avec une force terrible. « Je veux savoir où sur la terre entière vous trouveriez un père tel que mon père !»
Novograd-Volinsk, juillet 1920.